Nous savons ce que vous ressentez quand vous pensez qu'un intrus a pénétré chez vous. Votre respiration s'accélère. Vous consommez plus d'oxygène pour être prêt à agir. L'alarme Verisure est elle aussi prête à agir 24 heures sur 24. Nous savons protéger ce qui compte pour vous.
Pour une démonstration gratuite, appelez le 3112 ou rendez-vous sur verisure.fr.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, toujours avec vous.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est l'un des plus grands esprits de tous les temps, Léonard de Vinci. Ses carnets de notes révèlent ses obsessions profondes.
RTL.
Les armes, l'anatomie, les machines, les secrets de ses peintures et sa peur de l'échec.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est quand même l'auteur du plus célèbre tableau au monde, la Joconde. Et pourtant, Léonard de Vinci n'est pas qu'un peintre extraordinaire de la Renaissance. Non, non, c'est aussi un inventeur, un ingénieur hors du commun et visionnaire. Bonsoir Marc Castellini.
Bonsoir.
Ça fait plaisir de vous retrouver au micro d'RTL. Vous êtes
réciproquement.
Vous êtes historien de l'art et directeur de la Pinacothèque de Paris, qui consacre à ce génie, Léonard de Vinci, une exposition. Vous y révélez les secrets du Codex Atlanticus. De quoi s'agit-il ? De notes en fait que prenait Léonard de Vinci comme un grand carnet de croquis.
Ce codex en fait est une histoire étonnante parce que c'est des feuillets qui lui servaient en fait de notes. Il notait tout ce qui lui passait par la tête. Il y en a des pas loin d'un millier. C'est énorme.
Et sur ça 40 ans de vie.
Sur ça, 40 ans de vie, c'était vraiment ses notes. Et il les remplissait à tout moment, à tout instant, où qu'il fût, il avait avec lui des feuilles de papier, et il les grattait, les remplissait, dessinait.
Ce qui est dingue, c'est qu'ils sont écrits à l'envers, c'est ça ?
Certains, pas tous.
Certaines de ces notes sont écrites à l'envers, celles qu'il voulait coder encore plus, d'une certaine façon.
Voilà, celles qu'il considérait comme pouvant poser problème, ne devant pas tomber entre toutes les mains. Mm-hmm. Donc il les a écrites à l'envers. Ça vous donne un peu... l'idée quand même de essayer d'écrire à l'envers.
Ah mais oui, non, mais je pense qu'on peut tous essayer, on y
arrivera
pas.
Vous allez voir.
C'est si, on va y arriver, mais en mettant des heures et des heures à écrire trois
et
mots.
Il en a écrit comme ça, effectivement, des centaines. Tout ce qui relevait des secrets militaires, des inventions pouvant servir au génie militaire, tout ça notamment, il les codait en les écrivant à l'envers, pour que ça ne tombe pas dans de mauvaises mains.
Donc il y avait des dessins et des notes aussi. On va détailler, feuilleter ce géant carnet de notes où l'on découvre ces inventions extraordinaires. Mais avant, vous allez nous raconter quand même l'histoire de ce Codex Atlanticus, parce que c'est presque un miracle qu'il soit arrivé jusqu'à nous. À la mort de Léonard de Vinci, il est légué à qui ? Ses enfants, ses descendants, son plus proche collaborateur ?
Il est légué à son plus proche collaborateur. Il était en France, faut pas oublier, Léonard est mort chez nous. D'ailleurs, l'exposition est quelque part un anniversaire, puisque 1516, c'est l'arrivée de Léonard en France. Il est hébergé, il est invité par le roi, François Ier, qui lui offre une maison, qui lui offre un château, qui est à deux pas du château royal d'Amboise, qui est le Clos Lucé aujourd'hui, qui est un endroit absolument merveilleux. Vraiment, j'invite tout le monde à y aller parce que c'est un pur joyau. On sent à quel point, justement, François Ier aimait ce personnage, avait pour lui une admiration sans borne. Et il lui a permis d'avoir une fin de vie qui n'est pas venue très longtemps après, puisqu'il est 4 ans plus tard, il mourait. Mais il lui a donné une fin de vie extraordinaire.
Mais cette fin de vie, il l'a préparée. Il y avait un testament qui léguait ces 1119 feuillets du Codex Atlanticus.
Il n'y avait pas vraiment de testament sur ces feuillets. Ces feuillets étaient vraiment des notes qui ont été rassemblées, qui ont après été constituées en livres, ont eu une histoire assez extraordinaire, puisqu'elles ont été séparées en deux parties. Une partie est allé en Italie, une autre est restée en France, la deuxième partie est ensuite allée en France, et pendant des siècles et des siècles, personne n'en a entendu parler jusqu'à ce que ce soit redécouvert il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins de quelques dizaines d'années, pour être restauré, remis en l'état, retrouvé feuillet par feuillet. Et encore aujourd'hui, tout n'est pas déchiffré. C'est propriété de la bibliothèque ambrosiane qui nous a extrêmement gentiment accepté ce prêt, qui est propriété du Vatican. Donc cet ensemble appartient aujourd'hui Et au Vatican.
Codex Atlanticus, c'est lui qui a choisi ce nom pour ses carnets ou ça a été inventé par d'autres après sa mort ?
Ça a été inventé par d'autres, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ces notes qui lui servaient à tout. Il y en a 4 ou 5 des codex. Un qui est connu, qui est à la reine d'Angleterre, qui est un codex qui relève de, qui explique l'anatomie. Il y a un codex végétal où il passe toutes les fleurs en revue, toute la flore. Et le plus important en taille, c'est ce codex Atlanticus, qui lui a servi de base absolument à tout. On ne se rend pas compte, à travers les photos ou à travers les images qu'on peut avoir, de la réalité de ses œuvres. C'est-à-dire que quand on les voit, c'est d'une émotion extraordinaire, parce qu'on sent le génie du personnage à travers ça. Déjà, c'est beau. C'est pas grand, c'est petit, mais c'est beau.
Parce que les dessins sont beaux.
Tout est beau, l'écriture est belle, les dessins sont magnifiques, l'interprétation, l'équilibre de tout, on est absolument stupéfait par le génie. Et là, on comprend l'intelligence de ce personnage, qui, je dirais, à travers ses dessins, vraiment se matérialise totalement. C'est-à-dire que quand on voit ça, chaque œuvre est absolument émouvante.
Et
c'est
le papier
une œuvre.
Est en bel état.
Le papier est en bel état, tout a été restauré, tout est aujourd'hui rafraîchi et mis en l'état tel qu'il était initialement. C'est évidemment très protégé, c'est dans du verre anti-UV, anti-effraction, anti-tout ce qu'on veut. C'est un trésor inestimable, il ne vient pas d'une île secrète ni mystérieuse, mais il vient de Léonard de Vinci. On comprend surtout à travers ça le génie, la polyvalence du génie de ce personnage. Je crois que c'est vraiment l'intelligence la plus complète que l'humanité ait jamais portée. Beaucoup plus même que des gens comme Einstein, qui était finalement limité. Ce gars couvre tout, voit tout, entend tout, pense à tout, invente tout, pratiquement entre 2 et 5 siècles avant que ces créations aient été réellement mises en œuvre.
Et ben on va partir à la découverte de ces inventions. Un chariot autopropulsé, ancêtre de l'automobile, des pompes hydrauliques, une machine à mouvement perpétuel. Léonard de Vinci a pensé à tout. On va feuilleter dans un instant son codex.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir, on se balade dans le cabinet de curiosité de Léonard de Vinci grâce à notre invité Marc Cristellini, historien de l'art, directeur de la Pinacothèque de Paris, qui consacre une exposition à ce génie. Vous disiez tout à l'heure, Marc Cristellini, le plus grand génie que l'histoire de l'humanité ait porté, avec ce Codex Atlanticus, ces feuillets qui l'ont accompagné toute sa vie, où il notait ses inventions, ses idées. Certains feuillets sont écrits à l'envers, et effectivement, on imagine l'intelligence qu'il faut pour écrire comme ça. Et donc, il y a ces visions du futur. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de parler. Par exemple, les machines volantes qu'il imagine à la Renaissance, qu'est-ce qu'il dessine, qu'est-ce qu'il imagine ?
Il s'intéresse. En fait, je pense qu'il faut deux mots parler de lui.
Oui.
C'est un géant en termes de taille. C'est un personnage imposant, charismatique, extrêmement beau, extrêmement séduisant. C'est un séducteur. C'est un homme qui a une prestance hors du commun. Il est quasiment à la taille de François Ier, qui mesurait 1m90, qui était un géant. À une époque où tout le monde, la taille maximum, c'était 1m60, il faut se rendre compte.
Bien sûr.
Et ce qui est frappant avec lui, c'est l'intelligence. L'intelligence polyvalente. C'est pas quelqu'un qui a fait des études. Il était un enfant d'essence, ce qu'on appelait un bâtard, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit à une éducation. Donc il s'est absolument formé tout seul.
C'est un autodidacte.
Un autodidacte, par l'observation. C'était un... Souvent, il était considéré comme contemplatif. Les contemplatifs, on ne les aime pas. On pense souvent que ce sont des feignants et des bons à rien.
Ils n'ont pas le nez dans les livres, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. Dans le cas, et on oublie que les artistes sont des contemplatifs. Ils passent des heures à méditer. On se dit, ils foutent rien. Non, ce n'est pas vrai. Ils travaillent. La contemplation et l'observation de la nature peut être un travail, surtout dans le cadre d'un personnage comme celui-là.
D'ailleurs, il se définissait, Léonard de Vinci, comme un homme inculte.
Oui,
c'est ce qu'il disait lui.
C'était de la coquetterie.
Probablement.
Oui.
Mais, et donc, c'est quoi ? C'est l'observation de la nature qui l'amène à inventer ou à imaginer ces
machines ? Il était extrêmement attiré par la nature. D'ailleurs, encore une fois, le quiproquo avec Léonard est extraordinaire. Tout le monde connaît Léonard comme peintre. Il faut savoir que lui considérait que la peinture n'était qu'une partie absolument infime de ce qui l'intéressait. Il ne s'est jamais considéré comme peintre. Il s'est considéré comme ingénieur. Il était connu à l'époque, c'était une star totale. Pourquoi ? Pour les fêtes.
C'est-à-dire
qu'il organisait les fêtes royales, aussi bien pour les Est que pour les Sforza. Il a été engagé comme inventeur des fêtes. Donc les instruments qu'il crée, il faut s'imaginer, c'est le Spielberg de l'époque.
Les effets spéciaux, c'est ça ?
Absolument.
Par exemple ?
Vous avez des écrits absolument incroyables disant qu'il a réussi à inventer la nuit dans la nuit. C'est-à-dire qu'il faisait des spectacles avec des systèmes d'horloges, de mécanismes, où il créait en fait vraiment des spectacles qui étaient hallucinants. On est à la cour des rois, on est à la cour des seigneurs à cette époque. Il demandait des choses qui amusent la cour, qui les impressionne, le standard, le niveau d'une cour.
On est en France ou en Italie là ?
En Italie. Mais en France aussi. Mais c'est en Italie qu'il s'est fait cette réputation. La qualité d'une cour, le niveau d'un seigneur, d'un prince ou d'un roi se voyait à la qualité des spectacles qu'il était capable de produire et de montrer à sa cour.
Et je parlais d'un visionnaire. Qu'est-ce qu'il imagine ? Qu'est-ce qu'il invente de
Alors, nous parlions
ces,
tout à l'heure
ces machines
de,
là, qui aujourd'hui font partie de notre quotidien.
Nous parlions de l'avion. Oui. Bon, il a observé le vol des oiseaux, il a essayé de le reproduire. Il a effectivement, dans le codex, rédigé des feuillets entiers pour décortiquer le vol de l'oiseau, l'adapter à une machine, la mettre en place. Alors on pense probablement, puis tout d'un coup plus rien, c'est un arrêt total. Alors il semble qu'il ait fait des essais. Le problème, c'est que ces machines à l'époque pesaient 150 kilos et que évidemment il est très probable que le pauvre type qui a essayé son engin, il en est pas sorti vivant. Et ça l'a tellement mortifié que du coup il a arrêté net toute recherche. Néanmoins, c'était aussi un architecte, c'était aussi un ingénieur militaire. Il a été engagé aussi par certaines cours royales pour créer des instruments militaires et qui pouvaient servir à la guerre.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand on parle d'un visionnaire, on se dit la plupart de ces inventions, de ces images du futur qu'il a eues, il a fallu attendre deux siècles, voire plus, pour qu'elles voient le jour.
Fait.
Ça veut dire qu'en fait, il était trop en avance sur son temps, la technologie n'existait pas.
Rien n'existait à l'époque. Ouais. Il y avait, enfin, un certain nombre de choses existaient, mais aucune de ces inventions qui font aujourd'hui notre vie moderne. Aujourd'hui, vous avez la clim là dans ce studio, bien évidemment. Qui a inventé la clim ? C'est Léonard de Vinci.
Allons bon.
Absolument, pour Isabelle Dess, qui avait besoin d'avoir de la fraîcheur pour se maquiller. Alors, elle a inventé une espèce de roue avec des espèces de clapets qui, en tournant, se ferme et, à force d'aller vite, propulse de l'air frais. Et il a inventé donc la climatisation. L'air conditionné est une invention de Léonard de Vinci.
Le génie Léonard de Vinci, c'est aussi passionné pour l'eau et la guerre.
Oui.
Vous l'avez évoqué, Marc Castellini, on va en parler dans un instant et vous dévoiler plein de nouvelles inventions de Léonard de Vinci.
La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, jusqu'à 15h sur RTL.
Qu'est-ce qu'un oiseau ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument. C'est un instrument qui fonctionne selon des lois mathématiques.
RTL.
Et l'homme devrait être capable de mettre au point une machine susceptible de reproduire chacun de ses mouvements.
La curiosité est un vilain défaut.
Léonard de Vinci teste alors une nouvelle formule en se fondant sur le vol plané.
Sa fascination pour le vol humain entre sans conteste dans la catégorie de la grande avancée technologique qui lui vaudra la gloire que l'on sait.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Dans la curiosité, on vous révèle les secrets de Léonard de Vinci. Des inventions absolument fabuleuses, certaines ont vu le jour, certaines peut-être un jour se réaliseront. Qui sait, nous sommes avec Marc Restellini, directeur de la Pinacothèque de Paris. On feuillette avec vous les pages de ce codex Atlanticus qui a été réuni, une sorte d'immense carnet de notes parce qu'il y a plus de 1000 pages. On y découvre vraiment un Léonard de Vinci curieux de tout. Un Léonard de Vinci qui se réclame ingénieur militaire. Il invente un tas de choses, des tas de catapultes. De toutes sortes.
De toutes sortes. Il a créé aussi le premier tank, le premier char d'assaut, une machine invraisemblable qui est d'ailleurs bien pire que je pense que ce qui existe aujourd'hui.
Elle ressemble à quoi ?
Elle ressemble à une espèce de soucoupe volante sur roue, mais avec des canons sur tous les côtés. Donc ça devait être monstrueux en termes de dégâts, mais il a inventé cet objet, oui.
Mais c'était des objets qu'il créait là, pour le coup, pour être utilisé sur des...
Là, il était engagé, pendant effectivement, guerres, comme conseiller militaire. Donc, il avait suggéré ça sur... pour gagner des batailles. Oui, ouais.
Donc il invente des catapultes à cuillère et à fronde, des catapultes à fronde multiples, des catapultes à percussion ou à maillet. Il était très pointu sur les catapultes. Mmh. Et puis aussi la mitrailleuse à direction multiple. Ça ressemble à quoi ça,
c'est un espèce d'orgue de Staline, mais un peu qui s'écarte, vous voyez, comme les phares de la Citroën il y a très longtemps, qui louche à l'envers.
Ouais. Les orgues de Staline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mitrailleuse.
C'est un redoutable.
Voilà, qui doit tirer, je sais pas combien de 90.
Donc là, il a deux
roquettes
rangs,
quasiment. Voilà. Enfin, je suis pas un spécialiste militaire, mais c'est vraiment une arme lourde, quoi.
Voilà. C'est un peu ça.
Et donc, il invente les orgues de Staline.
Avant la lettre.
Avant la lettre, oui. Mais attendez, parce que moi, on n'a pas cette image-là de Léonard de Vinci, ingénieur militaire. C'est-à-dire, c'est des armes de mort, évidemment, par définition. Il
n'avait
pas de ça lui posait pas de soucis moraux
il semble que non, vous savez,
on n'est pas
au XXe siècle et surtout dans le contexte actuel, on est il y a 5 siècles. Ouais. C'est un autre monde, hein. Faut vraiment ne pas juger
dans ce codex
avec les yeux d'aujourd'hui.
Atlanticus, qu'on feuillette avec vous, Marc Restellini, on découvre, enfin on le savait quand même déjà un peu avant, mais que Léonard de Vinci était passionné par l'eau et tout le système hydraulique. Il invente par exemple un système de canaux pour la ville de Milan.
Absolument, c'est lui qui a mis au point cette espèce de système permettant de remonter les eaux. Il a inventé les écluses, il a également inventé un système de ville. C'était un architecte hors pair. Il a inventé un système de cité qui fonctionnait sur 5 niveaux. Vous aviez un niveau pour circuler en bateau, un niveau pour circuler à pied, un niveau pour circuler en voiture, et vous aviez en dessous un niveau pour se débarrasser des ordures. Donc il a parfaitement dessiné ça. C'est une ville ultra moderne, extrêmement bien pensée. Ville moderne au sens...
Qui pourrait inspirer les Dubaïotes par exemple.
Les architectes d'aujourd'hui. Oui,
voilà, c'est exactement ça.
Il y a un instrument qu'on a, enfin pas un instrument, mais un croquis qu'on a décrit sans vraiment, qu'on a énoncé sans l'expliquer, qui me semble fascinant, c'est cette machine à mouvement perpétuel. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi?
Le mouvement perpétuel, par principe, c'est quelque chose qui est inatteignable, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Donc comment voulez-vous que ça n'intéresse pas quelqu'un dont l'intelligence est plutôt aiguë? Donc l'idée d'inventer quelque chose qu'on mette en route et qui ne s'arrête jamais, quelque chose qui est obsessionnel pour un inventeur. Donc il y a réfléchi, il a essayé de le créer.
Vous dites que c'était une star. Alors évidemment c'est un anachronisme d'employer ce mot-là, mais très vite dans sa vie, c'est-à-dire qu'il est devenu tardivement, ou alors il a commencé à être courtisé par les rois en Italie, puis en France assez vite.
Il a très tôt été courtisé, il est devenu très vite une personnalité reconnue. Mm-hmm. Le problème après, c'était les alliances politiques qu'il entamait, qui faisaient que dans certains cas, il s'est retrouvé dans des situations extrêmement délicates. Il a dû fuir un certain nombre de fois et il s'est retrouvé en disgrâce, et il s'est retrouvé parfois même dans des situations extrêmement difficiles. D'ailleurs, quand il a été récupéré, reçu et recueilli par François Ier, c'était un moment où il était plutôt en disgrâce. Donc il est parti, il a quitté l'Italie où il était plus vraiment en odeur de sainteté. Il s'est retrouvé en France, accueilli par le roi qui à l'époque était le seul qui l'a recueilli.
C'était un homme célèbre, Léonard de Vinci, mais est-ce qu'il était riche ?
Il l'a été, comme tous les hommes de ce niveau, il a été très riche, il a tout perdu, il est redevenu riche, il a retout perdu. Vous savez, c'est pas des destins qui sont monolithiques.
Mais vous qui vous êtes plongé dans les pages de ce Codex Atlanticus, qu'est-ce que vous avez appris de Léonard de Vinci?
Moi, ce qui a été le plus frappant...
Ce que je disais tout à l'heure, pardon, qu'on était rentré dans son cerveau d'une certaine façon. C'est ça, ces carnets. C'est
exactement
sa pensée à l'œuvre.
Moi, ce qui m'a subjugué réellement, et encore, c'est vraiment quand j'ai été confronté au dessin directement, quand ils sont arrivés à la Pinacothèque, c'est déjà la beauté et l'équilibre. Ce sont des œuvres.
En tout cas, vous nous avez donné envie d'aller voir cette exposition Léonard de Vinci, Il digno, les secrets révélés du Codex Atlanticus. C'est jusqu'au 31 janvier 2016 et c'est à la Pinacothèque de Paris. Merci beaucoup Marc Estellini.
Merci beaucoup.
C'est la fin de la curiosité du week-end. Heureusement, on se retrouve demain le soir. Ce sera 20h avec au programme.
20h, 22h, les Champs-Élysées, l'histoire de la coiffure, mais aussi la vie d'Albert Einstein.
Nous, on adore passer du coq à l'âne.
Bah oui, c'est de la souplesse, madame.
En attendant, bonne fin de week-end. On laisse la place toute chaude et toute souple à Eric Jean-Jean pour son 100% live.